travailleurs, camarades et amis. Cela, cela fait 3 ans que nous sommes plongés dans une crise qui n'en finit pas, avec le chômage qui explose. Cela fait 3 ans que tous les pays sont victimes, les uns après les autres, des exactions des banquiers et du pillage d'une bourgeoisie de plus en plus parasitaire. La spéculation qui s'est déchaînée sur la Grèce, sur l'Espagne et sur le Portugal menace maintenant l'Italie et la France. Les banquiers spéculateurs reçoivent d'une main des milliards d'aides et garanties publiques et de l'autre, ils étranglent les finances publiques en imposant des taux usuraires. Et ils sont prêts ainsi à ruiner des pays entiers. Et que fait Sarkozy? Est-ce qu'il s'en prend à eux? Accuse-t-il les banquiers de voler les finances publiques? Eh bien non. Le voilà qu'il accuse les travailleurs de voler la sécurité sociale en prenant trop d'arrêts maladie. Le voilà qu'il dénonce les fraudes aux prestations sociales et les chômeurs qui sont tombés au RSA. Sarkozy chasse à nouveau sur les plates-bandes du Front National. Eh bien, c'est minable et ça soigne la haine de classe. Sarkozy a le culot de s'en prendre aux travailleurs et d'annoncer un renforcement des contrôles d'arrêt maladie. Mais qui va-t-il envoyer contre ses amis du Fouquet qui fraudent le fisc en plaçant leur argent dans les paradis fiscaux? Et qui va-t-il envoyer contre les patrons qui fraudent aux cotisations sociales? Et le gouvernement lui-même reconnaît qu'ils sont responsables des 3/4 de la fraude sociale. Et là, je ne parle que des patrons qui fraudent, c'est-à-dire de ceux qui sont dans l'illégalité. Mais à tout cela, eh bien, il faut rajouter l'ensemble du patronat, qui bénéficie tout à fait légalement des exonérations. Et c'est quand même 30 milliards de cadeaux par an qui sont faits aux groupes capitalistes. Et 30 milliards qui sont volés sur les salaires. Parce que ces cotisations sociales, eh bien, elles font partie de ce qui devrait revenir aux travailleurs. Et si cette somme était payée, eh bien, comme il se doit par le patronat, eh bien, il n'y aurait pas de trou de la sécurité sociale. Alors, dans cette société, il y a une poignée d'individus qui vivent en nabab, sans rien faire de leur droit. Ils sont entretenus par ceux qu'ils exploitent et de surcroît, l'État les autorise à ne pas payer ce qu'ils doivent à la collectivité. Alors Sarkozy peut parler des profiteurs et des parasites, mais ce sont les milliardaires. Et c'est lui, Sarkozy, qui contribue à les fabriquer. Pendant ces 3 années de crise, le gouvernement a contracté 420 milliards de dettes supplémentaires. Mais où donc est passé cet argent? Ces 420 milliards, ils ont bien atterri quelque part, ils ont bien servi à quelque chose. Qui est-ce qui en a profité? Eh bien, aucun travailleur, aucun retraité, aucun chômeur n'a vu la couleur de cet argent. Cette dette de l'État a explosé pendant ces 3 années de crise parce que l'État a fait de l'assistanat en grand pour les banquiers et pour les capitalistes. Les grandes entreprises ont toutes été aidées à coups de milliards et les dividendes des actionnaires ont été garantis par des subventions diverses et variées de l'État. Et les plus fortunés, vous le savez, ont été protégés par le fameux bouclier fiscal. Et bien voilà où sont passés les milliards que le gouvernement Sarkozy-Fillon veut maintenant faire payer à l'ensemble de la population. Alors les travailleurs, ils en ont des dettes. Qui parmi nous n'a pas eu besoin de s'endetter pour acheter une voiture ou pour acheter un logement? Et il faut même parfois s'endetter tout simplement pour se soigner. Et on est bien obligé de rembourser. Cela nous arrive parfois aussi d'aider un voisin ou un membre de sa famille à rembourser ses dettes. Mais pourquoi devrait-on payer pour la dette du patronat? Pourquoi devrait-on payer pour la dette des capitalistes? Alors quand bien même on nous ressort la dette de l'État à toutes les sauces, eh bien, les travailleurs n'en sont pas redevables. Cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie. Eh bien, c'est à elle de la payer. Le gouvernement fait peser tout le poids de la crise sur les travailleurs, les retraités et les chômeurs. En 4 mois, Ce gouvernement a annoncé deux plans de rigueur. Avec l'augmentation des taxes sur le tabac, l'alcool, les sodas, l'augmentation des mutuelles, de la CSG, l'accélération de la réforme sur les retraites pour le premier plan de rigueur. Avec la hausse partielle de la TVA, le gel des prestations sociales et encore l'avancement de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans pour le second. Et aujourd'hui, à ce qu'il paraît, les marchés financiers, c'est-à-dire les grandes banques et derrière elles le grand patronat, ont trouvé le plan d'austérité de Fillon pas assez dur. Alors, un troisième plan de rigueur, qui ne porte pas encore son nom, est en route. Et l'insistance que Sarkozy a mise pour expliquer la semaine dernière qu'il est urgent de sauver le modèle de protection sociale français est un signe. Au prétexte de la dette, c'est maintenant tout le système social qui est dans le collimateur du gouvernement. Et ce qui est d'ores et déjà retenu, eh bien, c'est l'instauration d'un jour de carence pour le paiement des arrêts maladie des salariés de la fonction publique. Pour le reste, le gouvernement hésite encore, mais nul doute que d'autres mesures vont suivre. Pour faire passer la pilule de ces plans de rigueur, le gouvernement nous explique qu'au final, l'effort est moins lourd que dans bien d'autres pays et qu'il ne s'agit que de quelques euros supplémentaires demandés à chacun. Mais des millions de familles comptent chaque dépense, euro après euro. Dans combien de familles les fins de mois arrivent tout de suite après avoir payé le loyer, les assurances, l'électricité, les crédits? Le gouvernement a décidé de geler les allocations logement et familiales. Alors qu'il y a 8 200 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 954 euros par mois. Eh bien, pour ces millions de femmes et d'hommes, les allocations logement et les allocations familiales, c'est essentiel. Et le gouvernement nous dit aussi que nous échappons au pire parce que les salaires ne sont pas touchés. Mais les salaires, comme les pensions de retraite, comme l'allocation adulte handicapé, comme le RSA, sont touchés depuis longtemps, tout simplement parce qu'ils ne suivent pas le coût de la vie. Quel est le salaire qui a augmenté au même rythme que les loyers ou que le prix du gaz? Et quelle est la pension de retraite qui a augmenté au rythme des mutuelles, des assurances? Et même se soigner coûte de plus en plus cher. Entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales et les dépassements d'honoraires. Combien d'entre nous hésitent pour aller chez le dentiste ou pour changer de lunettes? Et combien d'entre nous renoncent même à acheter ce que l'on appelle maintenant ces fameux médicaments de confort? Alors voilà ce que l'on fait payer aux travailleurs. De l'autre côté, côté bourgeoisie, eh bien le gouvernement a confirmé la remise de 2 milliards sur l'impôt sur la fortune. Il continuera jusqu'en 2013 à payer le bouclier fiscal et il préserve les 75 milliards de niches fiscales qui profitent aux possédants et aux grands groupes industriels. Prendre dans la poche des travailleurs, des retraités, des malades, pour faire des ponts d'or à la bourgeoisie, voilà à quoi se résume la politique du gouvernement. Patronat et gouvernement sèment la misère, eh bien ils récolteront la colère. Depuis 3 ans, l'économie est plongée dans une crise qui s'aggrave. Et de sommet en sommet, de G8 en G20, les dirigeants du monde capitaliste ont fait la preuve qu'ils ne maîtrisent absolument rien. Et les chefs d'État, comme toutes les grosses têtes au service de la classe privilégiée, des prix Nobel de l'économie, aux PDG grassement payés, tous sont impuissants face aux soubresauts des marchés financiers. Et ils nous amusent avec des fausses questions du genre « faut-il ou non sortir de l'euro ?» Mais la seule vraie question, c'est comment faire pour empêcher les banquiers de nuire? Et cette question, eh bien aucun chef d'État ne veut la poser, parce qu'ils sont tous à plat ventre devant les capitalistes. Ce n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui que les banques sont gâtées. Cela fait 3 ans qu'elles sont inondées de milliards d'argent public. Et à quoi cela a-t-il servi? Ben à rien. Et pire même, c'est de l'argent qui a fini par nuire à toute l'économie, parce que c'est de l'argent qui a été dilapidé dans les grandes fortunes et qui s'est retrouvé placé dans des opérations financières, c'est-à-dire dans la spéculation. Si on avait jeté cet argent par les fenêtres, il aurait été mieux utilisé. Et aujourd'hui, les chefs d'État européens recommencent en décidant d'aider les banques à se recapitaliser, en leur réservant des milliards de garanties, eh bien ce sont encore des milliards de cadeaux que l'on fait aux banquiers. Alors que ces mêmes grandes banques continuent de spéculer au vu et au su de tous, alors qu'elles continuent de verser des bonus faramineux aux traders, alors que tout le monde sait que les banquiers ne font même pas leur travail, et même les petits patrons s'en plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les crédits dont ils auraient besoin. Et c'est pour ce gâchis innommable qu'il faudrait accepter de réduire le nombre d'instituteurs, d'enseignants, accepter de réduire le personnel hospitalier, fermer des bureaux de poste. C'est pour ça qu'il faudrait faire des sacrifices. La course effrénée des banques au profit et la spéculation sont catastrophiques pour la société. Pour les arrêter, il ne faut pas compter sur les dirigeants, ce sont les serviteurs des plus riches et des banquiers. Ils ne feront rien contre eux. On ne l'arrêtera que si cela redevient l'objectif du mouvement ouvrier, quand il retrouvera la combativité et la conscience qu'il faut combattre tout le système capitaliste. Et pour un système bancaire qui fonctionne, eh bien il faudra exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat, fusionner toutes les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner pour la population et sous son contrôle. Le système capitaliste, c'est la loi de la jungle, c'est la course individuelle au profit privé, c'est la concurrence et le chacun pour soi. C'est une économie qui engendre l'irresponsabilité sociale de ceux qui la dirigent. Et là, je veux bien sûr parler des dirigeants des banques, des grandes entreprises. Ces derniers temps, beaucoup de commentateurs ont mis la crise sur le dos des Grecs. Comme si les travailleurs et les retraités grecs avaient abusé et comme s'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Mais si l'on veut comprendre ce qui s'est passé en Grèce, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, il n'y a même pas besoin d'aller à Athènes. Il suffit de voir ce qui s'est passé en France, ici, dans de nombreuses collectivités locales, dans de nombreuses municipalités et conseils généraux. Comment ces municipalités et ces conseils généraux se sont retrouvés surendettés? Parce qu'une banque, dans laquelle ils avaient d'ailleurs toutes les raisons de faire confiance, la banque Dexia, leur a prêté des crédits toxiques. Eh bien, en Grèce, ce n'est pas Dexia qui a sévi, c'est la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole et toutes les grandes banques allemandes. Elles se sont jetées sur la Grèce, comme des vautours, pour lui prêter à des taux usuraires, jusqu'à ce que la Grèce soit complètement étranglée. Et ce sont les mêmes banquiers, un peu plus tard, qui se sont mis à s'inquiéter. Comment allait-il être remboursé? Alors, ils ont imposé à la Grèce cure de rigueur sur cure de rigueur et ils ont fini par plonger toute l'économie grecque dans la spirale infernale de la dépression. Et si les banquiers ont obtenu, lors du dernier sommet européen, les garanties qu'ils voulaient, la Grèce, elle, est en train d'être transformée en pays du tiers-monde. Le chômage a explosé, les petits commerces ferment, les retraités sont plongés dans la misère et l'état sanitaire de la population se dégrade. Eh bien, l'irresponsabilité des banquiers spéculateurs vis-à-vis de la société, on la retrouve à tous les niveaux de cette économie. Toute l'économie capitaliste est comme ça. C'est le profit privé à court terme avant tout, et après moi le déluge. Les crises et la spéculation sont dans les gènes même de l'économie capitaliste. Eh bien, on ne les supprimera qu'en s'attaquant au cœur même de ce système, c'est-à-dire à la propriété privée des moyens de production et en remettant en cause la loi du profit. Aujourd'hui, avec la crise, le patronat mène la lutte de classe avec une violence redoublée. Confrontés à cette crise, les capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, réduisent la masse salariale, ils licencient. Et tous les grands groupes procèdent de la même façon, même s'ils font de l'argent et même s'ils font beaucoup d'argent. Et là, je voudrais parler un peu de ce qui se passe dans le groupe PSA, Peugeot Citroën, parce que c'est vraiment une leçon de choses. Il n'a pas suffi à la direction de Peugeot Citroën de battre un record de vente en 2010 et d'avoir réalisé plus d'un milliard de bénéfices. Il ne lui a pas suffi d'enrichir la famille Peugeot de 78 millions dans l'année. Maintenant, il lui en faut encore plus. Et mardi dernier, la direction du groupe Peugeot Citroën a annoncé, mardi à donc une semaine, a annoncé la suppression de 6800 emplois, dont 5000 emplois en France, 1000 concernant des ouvriers, 4000 concernant des techniciens, ingénieurs et cadres, et 800 concernant les intérimaires, mais eux, bien évidemment, ce n'est pas des licenciements. Et même si la direction de PSA dit le contraire, elle a toujours dans ses projets la fermeture de 3 de ses usines, une à Madrid, celle d'Aulnay-sous-Bois, dans la région parisienne, et celle de Sévelnord, à Ordin. Et si ces entreprises ferment, quelles seront les répercussions sur les plus petites entreprises de 50, 100, 200 salariés, qui sont bien sûr sous-traitantes, qui travaillent pour eux? Ce n'est pas qu'on ait à s'inquiéter pour les actionnaires de Visteon, de Delphi ou de Faurecia, mais que va-t-il se passer pour les travailleurs de ces entreprises-là s'il n'y a plus de commandes de PSA? Et il ne faut pas non plus oublier toutes les entreprises autour, les entreprises de nettoyage, de sécurité, de restauration, qui acceptent bien souvent les conditions drastiques de ces grands groupes, parce qu'au bout du bout, il y a toujours les travailleurs, les ouvriers que l'on peut écraser. Alors la plupart des commentateurs et le gouvernement ont justifié la décision de PSA en parlant de choix industriels, d'investissement dans le monde. Mais la réalité n'a rien à voir avec ça. Le problème de PSA, c'est d'augmenter encore ses marges en faisant faire la même production par toujours moins de travailleurs. PSA déclare la guerre aux travailleurs au nom de ses profits. On veut nous faire croire que l'hémorragie de licenciements et de fermetures d'entreprises qui frappent le pays s'explique par la crise ou par la concurrence internationale. Mais derrière chaque licenciement, derrière chaque fermeture d'entreprise, il y a des choix. Et des choix qui s'expliquent par la rapacité des capitalistes, qui n'en ont jamais assez. C'est leur profit avant tout. Et qu'est-ce qu'ils font de ces fameux profits? Eh bien, ils ne les investissent pas dans la production, ils ne les investissent pas dans la création d'emplois, et ni même dans la recherche, parce qu'ils ne font même pas confiance dans leur propre économie. Non? Ces profits vont grossir les fortunes des grands actionnaires et ils vont grossir les trésoreries des grands groupes. Et récemment, Varin, le PDG toujours de PSA, se vantait que l'entreprise PSA avait 11 milliards d'euros dans ses caisses. 11 milliards! L'État les voudrait dans ses propres caisses. Et ces 11 milliards, eh bien, ils ne dorment pas au fond d'un bas de laine. Et ils ne sont pas tous transformés en lingots d'or. Non, c'est de l'argent, bien sûr, qui doit rapporter et qui est placé sur les marchés financiers. Eh bien, à ces 11 milliards du groupe PSA, il faut rajouter ceux du groupe L'Oréal, de Toyota, enfin, du groupe Hersan aussi, hein, qui est dirigé par Uvendu. Et il faut rajouter, bien sûr, les fortunes privées de la bourgeoisie. Et vous avez les milliards qui alimentent au quotidien les marchés financiers. Il ne faut pas chercher plus loin qui sont les spéculateurs. Alors voilà à quoi sert l'argent arraché aux travailleurs à coup de licenciements, d'augmentation de cadence, d'heures supplémentaires. C'est de l'argent gâché dans la spéculation et c'est de l'argent qui finit par se retourner contre toute la société. Il n'y a pas d'un côté le méchant capitalisme financier et de l'autre le bon capitalisme industriel. Les groupes industriels et les grandes fortunes alimentent les marchés financiers. Les uns et les autres sont étroitement entrelacés. Le développement de la finance et la spéculation va de pair avec l'exploitation. Et on ne les supprimera qu'en s'attaquant au cœur même du système capitaliste, en s'attaquant à la domination de la bourgeoisie. Le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe, du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Et y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes pas embarrassés par les promesses du Parti Socialiste. Et que les travailleurs ont peu de risques de se sentir trahis par Hollande, le nouveau champion du Parti Socialiste, puisqu'il ne s'est engagé à rien vis-à-vis d'eux. Il ne s'est pas engagé à faire quoi que ce soit contre la dégringolade des salaires et du pouvoir d'achat. Il n'a rien opposé à la fermeture d'usines, au licenciement. Sur les retraites, s'il a promis que l'âge légal serait ramené à 60 ans, c'est aussitôt pour ajouter qu'il faudrait bien sûr cotiser plus longtemps. Autrement dit, les travailleurs pourraient peut-être partir un peu plus tôt, mais en choisissant une retraite de misère. Quant aux 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale au bout de 5 ans, il est de plus en plus clair qu'ils seront pris sur d'autres postes de la fonction publique, ce qui s'appelle des habillés Pierre pour habiller Paul. Et aujourd'hui, quand on entend les critiques de François Hollande vis-à-vis de Sarkozy, c'est des critiques sur le plan d'austérité de Sarkozy. Et c'est pour lui donner des leçons de rigueur. Le plan du gouvernement serait inefficace et improvisé, a-t-il dit. Et selon les propres termes de Hollande, il est, je le cite, « incohérent, injuste et inconséquent ». Eh bien, nous sommes prévenus. Si Hollande est élu, il fera, lui, un plan de rigueur cohérent et conséquent. Quant à la justice, ce sera de l'enrobage, parce que quel que soit l'enrobage, quand les dirigeants politiques parlent de rigueur, ce sont toujours les classes populaires qui finissent par payer. Alors, si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance en François Hollande. C'est d'inverser ce rapport de force entre les travailleurs et le patronat. C'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. Il n'y a pas de raccourci électoral, parce qu'il n'y a pas, il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leur manifestation. Et la seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, qui fasse craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais aussi son pouvoir sur les entreprises. Eh bien, nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs et la provocation des riches et de leurs porte-paroles en tout genre finiront par provoquer une telle explosion sociale. Quand, où et comment ces luttes se déclareront, nous ne le savons pas, et il serait vain de broder à ce propos. En revanche, nous avons tout intérêt à ce que le jour où cela arrive, nous soyons prêts. Et se préparer, eh bien, c'est discuter de nos revendications, c'est fixer des objectifs qui nous unissent tous, par-delà la situation individuelle des uns et des autres, par-delà notre branche professionnelle ou notre catégorie. C'est de discuter des objectifs dans lesquels les travailleurs en activité, ceux qui ont été poussés au chômage, ceux qui sont à la retraite, et même les jeunes, qui galèrent de petit boulot en petit boulot, puissent se reconnaître. Parce que la colère ou la détermination ne suffiront pas pour inverser le rapport de force. Il faut aussi que les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent où ils veulent aller et pour quels objectifs ils peuvent se battre. Sans quoi, il y aura toujours des charlatans pour nous emmener vers des impasses, et à plus forte raison, vers des voies qui sauvent la mise à la bourgeoisie. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de la crise actuelle seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques la leur fassent payer, il faut contraindre les possédants à payer. C'est eux ou c'est nous. Et tous les dirigeants politiques qui prétendent venir en aide aux exploités, aux chômeurs, mais sans s'en prendre aux exploiteurs, sans s'en prendre à leur profit, à leur fortune, sont des menteurs. Oui, il faudra faire payer la bourgeoisie. Quant à ceux qui brandissent la démondialisation ou le protectionnisme comme des solutions, eh bien, ils nous racontent des histoires. S'il s'agit de dénoncer les capitalistes qui ferment des entreprises, pour en ouvrir ou pas d'ailleurs dans un autre pays ou même dans une autre région, pourquoi ne pas dénoncer les responsables directs, les licencieurs, les capitalistes eux-mêmes qui suppriment des emplois pour accroître leurs profits? Pourquoi montrer du doigt les travailleurs à l'autre bout du monde qui sont nos frères? Ce n'est pas des travailleurs chinois, indiens ou autres dont il faut se protéger. C'est des capitalistes, c'est de leur rapacité, c'est de leur diktat. La concurrence internationale, dont il faudrait se protéger, est organisée par nos propres capitalistes, qui sont parmi les premiers profiteurs de l'exploitation à l'échelle du monde. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes multinationales d'un bout à l'autre de la planète. Alors, dire ou faire entendre que la démondialisation est possible et même souhaitable est une stupidité. Tout est mondialisé. Le savoir, les techniques, les capitaux et les idées. La production est mondialisée. Les moyens de communication et les moyens de transport sont plus développés que jamais et la planète est devenue un village. Eh bien, c'est heureux parce que nous sommes une seule et même humanité habitant sur la même terre. Karl Marx avait compris, dans les années 1840, alors que la mondialisation n'en était qu'à ses débuts, que l'humanité allait être fondue dans un sort commun et que plus aucun problème ne pourrait trouver de solution à une échelle nationale. Eh bien, à sa suite, nous pensons que les travailleurs du monde entier ont les mêmes patrons à combattre et les mêmes chaînes à arracher. Et nous sommes convaincus que débarrassée du capitalisme sera organisée à l'échelle du monde, qu'elle sera basée sur la mondialisation, c'est-à-dire sur la mise en commun de ce qu'il y a de meilleur à l'échelle de toute la planète. La démondialisation est la version moderne de la propagande nationaliste qui était, il y a peu, le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et bien que ces idées soient aussi défendues à gauche, ne change rien au fait qu'elles sont un poison pour les exploités. Dans cette période de crise, il n'est d'ailleurs pas impossible que les États capitalistes en viennent eux-mêmes à remettre en cause les accords commerciaux internationaux ou les accords financiers internationaux. Nous allons peut-être vivre une phase de remontée du protectionnisme. Mais souvenons-nous, la dernière fois que cela s'est produit, à la suite de la crise des années 1930, à la fois qu'on a vu revenir ce genre de repli nationaliste, protectionniste, eh bien cela a mené à la Seconde Guerre mondiale. Alors personne ne peut dire où nous mènera la crise actuelle du capitalisme, mais ce qui est certain, c'est que pour la classe ouvrière, il n'y aura d'issue qu'à travers des luttes pour défendre ses intérêts propres et qu'à travers la conscience d'être à l'échelle du monde une seule et même classe exploitée. Nous avons à protéger nos seuls moyens d'existence, nos pensions de retraite, nos emplois et nos salaires. Il faut les défendre bec et ongles en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous les bras disponibles, sans diminution de salaire. Même dans cette période de crise, il y a toujours du travail, il y a toujours de l'activité, même s'il y en a moins. Eh bien, le partager entre tous ne serait pas bien compliqué. On pourrait, dans beaucoup d'entreprises, commencer par réintégrer les intérimaires, les stagiaires, qui connaissent très bien le travail, et diminuer alors les cadences de chacun, rajouter des temps de pause, diminuer les horaires de chacun. On pourrait créer des postes dans les hôpitaux, dans les écoles. Au lieu de fermer des usines, des bureaux ou des services et de concentrer le travail sur ce qui reste, il faut répartir le travail entre tous. On ne peut pas accepter que ceux qui ont un travail croulent sous la charge alors que de plus en plus de bras sont condamnés à l'inactivité, au chômage. Il faut forcer le patronat à embaucher. Bien sûr, cela coûtera de l'argent. Mais les exploiteurs ont l'argent pour cela. C'est d'ailleurs parce que cet argent est détourné aujourd'hui vers les opérations financières que toute la société crève. Alors cet argent, eh bien, il serait mille fois mieux utilisé à des embauches et au versement des salaires. Et puis, nous devons bien sûr imposer des augmentations de salaire et des augmentations de pensions de retraite. Et nous devons imposer leur indexation sur les prix. Sur les prix que nous mesurerons nous-mêmes par en bas. Et je ne parle pas de l'inflation qui est calculée officiellement par le gouvernement, qui sous-estime largement l'augmentation des prix. Le gouvernement nous dit que le SMIC est indexé sur l'inflation. Mais rien que la mesure officielle de l'inflation ne prend par exemple en compte le poids du loyer que pour 7% des dépenses. Mais pour la grande majorité des familles ouvrières, c'est plutôt 20, 30, 40% des dépenses, le loyer. Alors oui, il faudra par nous-mêmes mesurer l'augmentation des prix et imposer qu'à chaque fois qu'ils augmentent, les salaires et les pensions de retraite augmentent dans la même proportion. Les patrons, les capitalistes et puis les dirigeants politiques à leur service nous expliqueront que tout cela est complètement utopique, que ce n'est pas possible, parce que cela les ruinerait, parce qu'il y a la concurrence internationale. Eh bien, qu'ils rendent donc publics leurs comptes, et pas les comptes officiels destinés au fisc complaisant, mais les comptes où figure tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation. Et on verrait alors qu'il y a de quoi assurer l'emploi de tous et qu'il y a même de quoi augmenter les salaires de tous. Les capitalistes cachent leur course au profit privé et leur dangerosité pour toute la société derrière le secret des affaires. Alors il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration sans le moindre contrôle et sans même la moindre transparence. Pour pouvoir les empêcher de faire leur sale coup en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Aujourd'hui, un salarié, un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts des travailleurs, contraire à la société, contraire même à l'environnement, eh bien il a interdiction de le dévoiler. Et voilà pourquoi, quand une entreprise licencie, les travailleurs premiers concernés sont les derniers avertis. Et voilà pourquoi, quand une entreprise pollue, voire empoisonne la population, celle-ci ne l'apprend qu'une fois que le mal est fait. Eh bien, il faut supprimer cet interdit. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres catégories populaires, et c'est l'intérêt de toute la société. Bien sûr, supprimer cette loi qui punit actuellement tous ceux qui rendent publics les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires ne fera pas tout. Ça ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle de la population. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté des travailleurs de se mobiliser et de s'organiser pour cela. Mais la suppression du secret des affaires sera un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du grand capital. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. ne le répéteront jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives et mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. Et puis, c'est donc ces idées-là que j'ai défendues ce soir, que je défendrai dans cette campagne électorale. Et c'est un programme, je ne le cache pas, qui est donc un programme de lutte. C'est sans doute ce qui caractérisera ma candidature. Mais ce n'est pas seulement cela. Parce que dans cette campagne, je défendrai aussi les convictions communistes que nous partageons. Parce qu'il n'y a aucune raison de laisser dans cette campagne électorale le monopole de la parole à tous ces dirigeants qui se disent de gauche et qui s'accommodent de cette société capitaliste qui est un ordre social injuste et une organisation économique stupide. Non, l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités et des injustices. La société capitaliste est une maison de fous où les crises sont déclenchées parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production par rapport à ce que la population peut acheter. Et ce trop-plein de richesses, eh bien, il va dans la finance, dans la spéculation, et il finit par étouffer toute l'économie. L'économie capitaliste est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire vite et bien, mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Et plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, et moins il y a d'éducation. Plus on a les moyens de soigner les maladies graves et même de réussir des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. Et puis, on est capable de produire la nourriture pour deux fois la population de la planète. Mais il y a aujourd'hui, dans la corne de l'Afrique, des millions de femmes et d'hommes qui sont affamés. Eh bien, pour changer cela, il faut une transformation profonde de la société. Une transformation qui ne peut se faire qu'en expropriant la bourgeoisie et qu'en réorganisant la production sur d'autres bases. Et cela, seule la classe ouvrière peut le réaliser, les travailleurs. Les travailleurs peuvent le réaliser parce que eux, ils n'ont rien à perdre que leur chaîne et ils ont dans ce combat un monde à gagner. Et je voudrais, dans cette campagne électorale, m'adresser spécialement aux jeunes. Pour les jeunes qui commençaient la vie active, ces 3 années de crise ont été des années perdues. Ce sont des centaines de milliers de jeunes, y compris diplômés, qui se sont entendus dire que ça n'embauchait pas. Et combien de CV ont-ils envoyés? Combien de stages ont-ils acceptés? Et combien d'attentes ont-elles été déçues? La jeunesse travailleuse est ballottée de petit boulot, de stage en stage, et le tout entrecoupé de périodes de chômage. Les espoirs de réussite individuelle sont désormais réservés à une toute petite minorité de la jeunesse favorisée. Et beaucoup de jeunes comprennent que la société leur réserve une vie difficile, plus dure même que celle de leurs parents. Eh bien, à ces jeunes, je dis qu'il est possible de changer les choses, à condition de se battre et de lier son sort au combat de la classe ouvrière. La jeunesse, qui a toujours été à la pointe des contestations, a un rôle clé à jouer dans cette riposte nécessaire. Et qu'on soit jeune ou moins jeune, eh bien chacun a le choix de lutter pour un monde meilleur qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous, et pas seulement ceux d'une minorité rapace. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au lieu, au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. Et à tous ceux qui ne se résignent pas, eh bien nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. Transformation révolutionnaire de la société n'est pas l'enjeu de cette élection présidentielle. Elle ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de l'élection présidentielle que d'aucune autre. La transformation révolutionnaire de la société ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. Mais à une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que j'ai présenté ce soir. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Mais cette campagne électorale, eh bien, elle nous donne la possibilité de le défendre et de préparer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Cette campagne, elle nous donnera un peu plus accès aux médias, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. De toute façon, ce moyen ne pèsera pas lourd face au matraquage médiatique des médias qui défendent le point de vue des possédants. Et ça, il ne faut pas s'en étonner. Depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses propres moyens pour défendre et propager sa propre politique. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a l'activité des militantes et des militants, des travailleurs conscients et de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Vous pouvez contribuer à faire entendre ces idées dans cette campagne. Si vous le voulez, vous pouvez nous aider à faire entendre une voix communiste qui n'en reste pas à la dénonciation des excès du capitalisme, mais qui remet en cause ses fondements même. Vous pouvez contribuer par la parole auprès de vos voisins, dans votre atelier, votre bureau, dans votre entourage. Vous pouvez contribuer en participant à nos campagnes d'affiches, à l'organisation de nos réunions et de toutes les façons qui vous sembleront possibles. Alors, vous l'aurez compris, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour nous aider dans cette campagne électorale. Et si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement ces idées et à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue, en tout cas dans les luttes.